France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Un journal largement dominé par les élections municipales et les tractations avant le deuxième tour. À Marseille comme à Paris, Benoît Payan et Emmanuel Grégoire refusent de faire alliance avec la France insoumise. La droite marseillaise, elle, ne fera pas le jeu de l'extrême droite. Même scénario à Paris. Mais Rachida Dati n'arrive pas à convaincre Pierre-Yves Bournazel de la rejoindre. Page spéciale dans ce journal avec Mathilde Vinceneux, Nicolas Ballu, Paul Barcelone et Rosalie Lafarge. Dans le reste de l'actualité, Nicolas Sarkozy joue une nouvelle fois son avenir judiciaire, cette fois devant la Cour d'appel de Paris pour le deuxième procès de l'affaire du financement libyen. En première instance, l'ancien chef de l'État avait été condamné pour association de malfaiteurs. L'Europe cherche une solution pour débloquer le détroit d'Ormuz. L'Union européenne propose de recourir à la mission Aspides, actuellement déployée en mer Rouge, mais l'initiative divise les 27 États membres. C'est l'un des points chauds du deuxième tour des municipales. Marseille, la deuxième ville de France que le Rassemblement national espère bien conquérir dimanche prochain. Son candidat Franck Alizio a obtenu hier soir 35%. Juste derrière, le maire sortant d'hiver gauche Benoît Payan, crédité de 36,7%. Benoît Payan qui vient de refuser la main tendue par le candidat LFI Sébastien Delogu, arrivé quatrième avec 12%. À droite, c'est Martine Vassal et ses 12,4% qui rejette l'idée de s'effacer devant le RN. Mathilde Vinceneux, c'est donc une quadrangulaire qui se profile à Marseille.
Le premier à avoir mis fin à toute possibilité de tractation, c'est le maire sortant Benoît Payan. Dès ce matin, entouré de ses candidats pour les 8 mairies de secteur, il est allé déposer en préfecture les listes de son alliance de la gauche, le printemps marseillais, fermant la porte à toute possibilité de fusion avec la France insoumise, alors que le candidat LFI Sébastien Delogu appelait à un front antifasciste pour battre le RN. Mais Benoît Payan compte remporter la bataille en solitaire.
Face au Rassemblement national, il n'y a ni compromission, ni tambouille, ni arrangement. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pas M. Delogu qui m'intéresse, ce sont les Marseillaises et les Marseillais.
Le candidat LFI Sébastien Delogu dénonce une décision irresponsable. Mais Benoît Payan persiste. Il appelle les électeurs insoumis à le soutenir et tend aussi la main aux électeurs de la droite et du centre. Mais que feront ces électeurs alors que la candidate Les Républicains, soutenue par les macronistes, vient d'annoncer qu'elle se maintiendrait au second tour. « Je serai au rendez-vous », écrit Martine Vassal dans un communiqué. Martine Vassal, arrivée troisième, qui compte bien siéger dans l'opposition municipale pour continuer à peser aussi au sein de la métropole qu'elle dirige. Si elle s'était retirée, elle aurait tout perdu.
Mathilde Vinceneux depuis Marseille. Alors, cette configuration qui voit un candidat du RN loin devant celui de la droite républicaine se retrouve dans un certain nombre d'autres villes, particulièrement sur le pourtour méditerranéen. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Faut-il en conclure, Nicolas, que le RN est en train de supplanter la droite et son principal parti, les Républicains?
Alors, le RN le souhaiterait, mais ce n'est pas encore le cas. Il le souhaiterait avec des résultats comme l'élection d'un maire RN à Cannes-sur-Mer, par exemple, hier soir à la place du maire sortant LR. Je disais, ce n'est pas encore le cas. Hier soir, Jordan Bardella a indiqué que ses candidats se maintiendraient partout, sauf exception. Le président du parti a affirmé qu'il tendait la main aux listes de droite sincères, je cite. Les alliances éventuelles vont permettre donc de mesurer le pouvoir d'attraction de l'extrême droite. Le nombre de cas où des rapprochements se feraient est toutefois particulièrement limité. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui que les alliances se font à gauche. Et chez les Républicains, on a d'ailleurs prévenu ce matin, fusion égale sanction. Nous ne sommes pas des extrémistes, affirmait ce matin le secrétaire général LR Didier Geoffroy. Il n'empêche, le RN en appelle aux électeurs, ainsi à Nîmes, pour empêcher la victoire du candidat communiste. Cet après-midi, le RN Julien Sanchez en tête publie même la proposition qu'il aurait faite hier soir au candidat LR Franck Proust, sans succès. Ce sont les listes de droite qui ont fusionné cet après-midi. Il est peu de situations comparables à celles-ci dans les grandes villes, à vrai dire, plus souvent dans les villes moyennes. On citera simplement deux exemples, par exemple La Flèche, dans la Sarthe, le candidat RN est en tête devant la maire sortante socialiste. En troisième position, le candidat LR qui a décidé de se maintenir. Autre exemple, à Douai, dans le Nord, c'est le candidat RN en tête qui arrive juste devant le maire sortant dans une quadrangulaire qui le resterait.
Nicolas Ballu, service politique de France Culture. À gauche, le Marseillais Benoît Payan n'est pas le seul à refuser toute alliance avec LFI. À Paris aussi, le socialiste Emmanuel Grégoire balaye l'appel de l'insoumise Sophia Chikirou à la fusion de leur liste. « Je ne demande rien à Sophia Chikirou, elle fera ce qu'elle veut », a répété tout à l'heure Emmanuel Grégoire. Il est vrai que le candidat socialiste est bien placé pour ce deuxième tour, avec 38% hier et plus de 12 points d'avance sur Rachida Dati. Malgré ce relatif échec, l'ancienne ministre de la Culture espère toujours ramener la droite à la mairie de Paris. Et elle compte pour cela sur les quelques 11,3% de Pierre-Yves Bournazel, le candidat du parti Horizon. Mais au cœur de la négociation, il y a l'ombre de Sarah Knafo, la candidate de Reconquête qui fait pression sur la droite avec ses 10%. Une négociation Paul Barcelone qui semble ce soir dans l'impasse.
Car à cette heure, il n'y a pas d'accord. Malgré des échanges de SMS jusqu'à tard dans la nuit et même une rencontre en secret cet après-midi, Rachida Dati affirme qu'elle va travailler à un projet d'alternance avec Pierre-Yves Bournazel. Mais celui-ci reste très ferme.
Je souhaite très clairement la clarté. Il ne peut pas y avoir de compromission ou d'alliance avec l'extrême droite et Madame Knafo. Je crois que maintenant, les choses ont été dites et il appartient à celles et ceux qui veulent l'alternance de répondre favorablement ou défavorablement à ces valeurs, à ce projet que je souhaite pour Paris.
Condition sine qua non, donc, ne pas faire d'alliance avec la candidate de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui propose elle-même un accord à Rachida Dati.
Madame, l'heure est grave. Le combat va être serré. Mais il nous reste une chance, et une seule, de battre la gauche. Le rassemblement de toutes nos forces. Les voix du centre ne suffiront pas à l'emporter. Je ne vous propose pas un accord d'appareil. Madame Dati, je vous parle d'un accord de femme à femme.
En réalité, Pierre-Yves Bournazel continue de faire monter les enchères, mais le candidat arrivé quatrième hier soir est aussi pris en étau. Appel d'Emmanuel Macron à l'unité de son camp, pression d'Édouard Philippe, qui réclame le rassemblement dans son équipe. Personne n'est d'accord. Alliance avec Rachida Dati ou maintien de sa propre candidature. Ce soir, Pierre-Yves Bournazel semble savourer d'être au centre du jeu, dans le costume de faiseur de roi, arbitre des élégances.
Et si la gauche part divisée à Marseille comme à Paris, elle sera unie dans d'autres villes dimanche. À Toulouse, l'insoumis François Picmal fera équipe avec le socialiste François Briançon contre le maire sortant d'hiver droite Jean-Luc Moudenc. À Lyon, la candidate LFI Anaïs Belloissa-Chérifi a décidé de rallier le maire sortant écologiste Grégory Doucet, arrivé légèrement en tête hier soir devant l'ancien patron de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas. Des accords de fusion de liste à gauche ont également été conclus à Limoges, Besançon et Avignon, et les tractations continuent entre socialistes, insoumis et écologistes à Lille et Nantes notamment. Et qu'en est-il du bloc central après ce premier tour? Si Édouard Philippe s'en sort bien mieux que prévu et semble en passe de réussir son pari au Havre, tous les engagés de la droite et du centre ne peuvent pas en dire autant. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Stanislas.
Sans grande surprise, les partis de ce qu'on a pu appeler la majorité présidentielle ne réalisent pas d'excellents scores.
Et non, alors ça n'empêche pas chez Renaissance par exemple qu'on se félicite d'avoir réussi à faire élire plus de 130 maires dès hier soir, comme Franck Riester à Coulommiers, d'être en tête à Annecy, même si rien n'est fait pour Antoine Armand, d'être la première force d'alternance à Bordeaux avec Thomas Cazenave, et puis de voir plusieurs candidats en ballotage dit favorable. Le parti présidentiel considère que sa stratégie d'implantation porte ses fruits puisqu'elle va progresser à l'issue du scrutin. En même temps, le mouvement de Gabriel Attal part en la matière de très loin et ne s'attarde pas dans sa communication sur les cas plus compliqués. Son choix de soutenir Pierre-Yves Bournazel, on en parlait, à Paris, n'a pas créé la dynamique espérée. Pas plus qu'à Marseille, où Martine Vassal s'est retrouvée largement distancée. Et même à Lyon, Jean-Michel Aulas a été rattrapé. Du côté d'Horizon, au-delà du cas Bournazel, donc Édouard Philippe, lui, est certes bien en tête au Havre, avec 10 points d'avance sur son rival communiste. Mais le numéro 2 du parti, Christian Estrosi, a lui 10 points de retard à Nice face à Éric Ciotti. Si à Angers et Reims, les sortants Christophe Béchu et Arnaud Robinet sont bien partis, à Besançon, ville cible, le candidat dépasse à peine les 5%. Pour le Modem, maintenant, c'est bien sûr à Pau qu'on serre les dents. L'ancien Premier ministre François Bayrou est en tête mais perd beaucoup de voix par rapport à 2020 et se retrouve dans une triangulaire PS-RN au second tour. Si le député Philippe Vigier passe dès le premier tour à Châteaudun, l'ancienne ministre Geneviève Darrieussecq termine troisième à Mont-de-Marsan. Quand l'actuelle ministre Marina Ferrari, elle, peut faire une croix sur ses ambitions municipales à Aix-les-Bains, où le sortant a déjà gagné hier soir.
Rosalie Lafarge, merci. Pour conclure ce chapitre consacré aux municipales, sachez que France Télévisions a décidé de suspendre son éditorialiste Nathalie Saint-Cricq. Hier soir, lors de la soirée électorale sur France Info, la télé, la journaliste avait murmuré alias Benito à propos d'Éric Ciotti, largement en tête à Nice. Nathalie Saint-Cricq s'était ensuite excusée d'avoir comparé le patron de l'UDR à Benito Mussolini. Suspendue une semaine, elle ne sera pas à l'antenne dimanche pour le deuxième tour des municipales. L'agenda judiciaire très chargé de Nicolas Sarkozy passe une nouvelle fois par la cour d'appel de Paris. Depuis le début d'après-midi, l'ancien président est rejugé dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse en 2007. Condamné en première instance pour association de malfaiteurs à 5 ans de prison ferme, il avait été incarcéré pendant 3 semaines à la prison de la Santé à Paris. Le 10 novembre dernier, il avait obtenu sa libération sous contrôle judiciaire. Ce nouveau procès se tient jusqu'au 3 juin. Dans le décor monumental de la première chambre de la cour d'appel de Paris. Cour d'appel où vous vous trouvez, Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir.
Anne, 9 autres prévenus comparaissent aux côtés de Nicolas Sarkozy, mais il y a des absents.
Oui, 7 prévenus sur 9 sont physiquement présents et parmi les acteurs clés de l'affaire, Claude Guéant manque à l'appel. Le secrétaire général de l'Élysée sous la présidence Sarkozy, âgé de 81 ans, a été hospitalisé il y a 15 jours, a expliqué son avocat Philippe Boucher-Elgozy. Son état général est fragile, dégradé et son avocat a donc demandé une expertise médicale pour lui éviter de venir physiquement au procès, même si évidemment il sera jugé. Cette demande a été acceptée par le tribunal qui rendra dès demain matin les conclusions de cette expertise. Dans cette affaire, Claude Guéant a été l'un des prévenus les plus lourdement sanctionnés en première instance. Le tribunal l'avait condamné à 6 ans de prison pour toute une série de délits, dont corruption, trafic d'influence passive ou encore faux et usage de faux. Claude Guéant, tout comme l'ancien ministre Brice Hortefeux, aurait démarché le pouvoir libyen à l'occasion de rendez-vous secrets en Libye avec un proche de Muammar Kadhafi, recherché par la justice française pour son rôle dans l'attentat du DC-10 de l'UTA qui a coûté la vie à 170 personnes en 1989. Claude Guéant aurait donc œuvré à la conclusion d'un pacte de corruption pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Ce pacte corruptif est au cœur de cette saga judiciaire où se mêlent intermédiaires sulfureux, terroristes internationaux ou encore anciens ministres et chefs d'État. Le président de la Cour d'appel, Olivier Géron, s'est plongé dans une fastidieuse lecture des méandres de ce dossier judiciaire depuis le début d'après-midi. Nicolas Sarkozy est assis au premier rang. Il écoute, le visage crispé.
Merci Anne Fauquemberg depuis la Cour d'appel de Paris avec Johanna Gabric pour les moyens techniques. Avec ce nouveau procès, la Cour va reconsidérer l'ensemble des chefs de prévention dans la mesure où le parquet aussi a fait appel. Elle va donc se pencher à nouveau sur ce délit d'association de malfaiteurs, souvent dénoncé comme une infraction fourre-tout par les avocats de la défense. La loi permet de retenir des actes préparatoires, même si le délit ou le crime visé n'a pas été commis. Mais le cas de Nicolas Sarkozy présente une spécificité. C'est ce que nous explique Didier Rebu, professeur de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas et directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris.
La seule infraction retenue dans le jugement, elle peut être fragile au sens où elle porte sur une préparation d'une infraction qui n'a pas eu lieu. C'est en cela qu'il peut y avoir une fragilité. Le but de l'association de malfaiteurs, c'est de permettre la répression avant que l'infraction n'ait été commise, d'autoriser les forces de police et donc après elle, la justice, à condamner des individus sans attendre qu'ils soient passés à l'acte. Très souvent, on a cette situation. La particularité que l'on a dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, c'est que lui, s'il n'a pas commis l'infraction ultérieure, c'est pas parce qu'on l'en a empêché. Le jugement d'ailleurs est assez évasif là-dessus. C'est peut-être, c'est semble-t-il, parce qu'il y a renoncé. C'est pas fréquent. C'est-à-dire qu'il se voit condamné pour la préparation d'une infraction à laquelle il aurait renoncé. Juridiquement, le texte permet cela. Le texte n'est pas violé lorsque les juges condamnent Nicolas Sarkozy pour une association de malfaiteurs en vue d'une corruption qu'il a renoncé à commettre ou qu'il n'a pas commise, on ne sait pas pourquoi. Juridiquement, c'est possible. Mais il est certain que ce n'est pas le schéma habituel des associations de malfaiteurs où les individus sont condamnés pour des infractions qu'ils n'ont pas eu le temps de commettre parce qu'on les en a empêchés.
Le professeur de droit Didier Rebu répondait à Florence Turme. L'actualité ce soir reste aussi dominée par le conflit au Proche et au Moyen-Orient. Donald Trump s'adresse en ce moment à la presse à Washington depuis le Kennedy Center. Le président américain qui n'arrive pas à convaincre ses alliés d'intervenir aux côtés des États-Unis pour débloquer le détroit d'Ormuz, actuellement sous contrôle quasi total des Iraniens. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont écarté aujourd'hui toute mission de l'OTAN visant à rétablir la circulation maritime dans le détroit. Quant à l'Union européenne, elle tente de montrer sa bonne volonté pour trouver une solution. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE sont actuellement réunis à Bruxelles. Bruxelles où l'on retrouve Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir.
Fabien, l'Union européenne envisage de recourir à une mission militaire déjà déployée dans la région, mais en mer Rouge, la mission Aspides.
Effectivement, une mission constituée actuellement de 3 navires militaires. La France a annoncé il y a une semaine vouloir leur adjoindre 2 frégates. La mission actuelle d'Aspides, c'est de sécuriser le trafic maritime dans la mer Rouge, du canal de Suez jusqu'aux côtes du Yémen, où les rebelles houthis fidèles au régime iranien multiplient les attaques contre les navires commerciaux. Du point de vue du droit international, l'Union européenne devra changer le mandat de cette mission Aspides si elle souhaite lui faire prendre la direction du détroit d'Ormuz. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, indiquait ce matin qu'elle comptait poser la question aux 27 ministres des Affaires étrangères réunis aujourd'hui à Bruxelles. Il n'y a aucune urgence, ont déjà répondu certains, estimant que ce débat est prématuré tant que la guerre se poursuit, les Européens ne voulant surtout pas apparaître comme des belligérants actifs dans ce conflit.
Alors, prudence de l'UE, Fabien, mais aussi du Royaume-Uni qui refuse de se laisser entraîner dans une guerre plus vaste, selon son Premier ministre Keir Starmer.
Effectivement, pour la même raison, hein, c'est surtout pas dans le cadre de l'OTAN dont l'objet se limite à la défense du territoire de ses membres. Une réponse directe à Donald Trump et à ses menaces à peine voilées sur l'avenir de l'OTAN. Le président américain prédisait à l'Alliance la nuit dernière un avenir très mauvais si ses membres n'aident pas les États-Unis à rouvrir le détroit d'Ormuz. Une prise de position britannique qui rapproche encore un peu plus Londres de l'Union européenne en matière de défense. Le Royaume-Uni ayant lui aussi, comme la France, l'Espagne et la Grèce, renforcer son déploiement maritime en Méditerranée, notamment pour protéger les bases militaires britanniques positionnées à Chypre et visées par des drones iraniens ces dernières semaines.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Cette mobilisation internationale pour débloquer le détroit d'Ormuz redonne en tout cas de l'espoir au marché pétrolier. Le cours du baril de Brent était à la baisse en début d'après-midi, de même que son équivalent américain, le WTI. Autre signe encourageant pour les marchés, la volonté de l'Agence internationale de l'énergie d'augmenter un peu plus le recours aux réserves stratégiques de pétrole. 400 millions de barils ont déjà été libérés la semaine dernière. Au Moyen-Orient, le conflit est aussi une guerre d'image. Depuis le déclenchement des frappes israélo-américaines, les vidéos générées par l'intelligence artificielle pullulent sur les réseaux sociaux. Une plateforme est majoritairement utilisée pour les relayer, la plateforme X, anciennement Twitter. Le réseau social d'Elon Musk s'est pourtant engagé récemment à suspendre les comptes qui utiliseraient l'IA pour générer de fausses vidéos de guerre. Mais cette mesure n'a que peu d'effet pour le moment, Boris Loumagne.
La ville de Tel Aviv, réduite en cendres par une pluie de missiles. Un immeuble à Dubaï ravagé par les flammes. Des avions de combat américains qui s'écrasent dans le désert. Toutes ces vidéos ont été générées par l'IA, diffusées sur X et partagées des milliers de fois. À l'origine de ces tentatives de manipulation, on trouve des utilisateurs proches du régime iranien, mais aussi beaucoup de comptes qui cherchent avant tout à gagner de l'argent. Sur X, en effet, les comptes premium peuvent toucher des revenus proportionnels au nombre de visionnages des vidéos, ce qui encourage la diffusion de contenus mensongers ou sensationnalistes. Alors, pour enrayer ce phénomène, la plateforme a annoncé la semaine dernière qu'elle suspendrait pendant 90 jours, les créateurs qui publient de fausses vidéos de guerre. Le règlement de X prévoit même une suspension définitive en cas de récidive. Mais dans les faits, et d'après les chercheurs spécialisés dans la désinformation, peu d'utilisateurs fautifs ont été bannis de X et la plateforme est encore aujourd'hui saturée de contenus générés par l'intelligence artificielle.
Boris Loumagne de la rédaction internationale de Radio France. Un Français condamné à 10 ans de prison en Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan. Martin Ryan, un homme d'affaires établi dans le pays depuis 6 ans, a été reconnu aujourd'hui coupable d'espionnage. Il avait été arrêté en décembre 2023 en pleine tension diplomatique entre Paris et Bakou autour du soutien français à l'Arménie. La France rejette catégoriquement ces accusations d'espionnage à l'encontre de son ressortissant. Un mot du temps demain, sec et ensoleillé sur la plupart des régions après dissipation des brumes matinales, des grisailles qui seront tenaces du Nord-Pas-de-Calais à la Lorraine. Demain matin, il y aura de faibles gelées sur le centre-est. Ailleurs, il fera entre 2 et 10 degrés. Quant aux températures maximales, elles iront de 16 à 23 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Axel Dubois à la technique. Élise Le.